ます。Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika,
auditeurs de Radio Galère, eh bien nous sommes à la Friche, la Belle de Mai, le mercredi 21 mai justement. Pour Livres et Amis, Dominique Françoise au micro et Jules à la technique. Bah, les nouvelles du monde sont toujours aussi peu réjouissantes. Mais toutefois, la baleine projette en version restaurée le joli mai de Chris Marker. Oui, c'était en mai 1962, le premier mois de mai de paix, enfin pour la France en 1962, depuis 1939. Et aujourd'hui, ben mai 2025, le monde finit par se rendre compte de toute l'horreur de la destruction de Gaza par l'État d'Israël. Et l'Union européenne s'interroge sur la renégociation de ces accords. Alors là, oui, tiens, l'éventualité du resserrement et de la fermeture des cordons de la bourse fait réagir Netanyahou. Il proteste contre le fait que l'Union européenne pourrait envisager de renégocier ses accords avec Israël. Ben oui. Si l'Europe avait réagi un peu plus tôt et sans attendre un an et demi, point de suspension. Alors, le joli mai, en tout cas chez nous, au soleil, spectacle de fin d'année pour les jeunes étudiants de théâtre et de musique, profitons-en, c'est quelquefois dans des salles, quelquefois en plein air. Donc le bon air, oui, le bon air de vacances, le bon air de voyage, essayons en effet d'en profiter. Pour Livres et Amis, la lecture du superbe cahier d'un retour au pays natal de Césaire il y a 2 semaines m'a donné de nouveau envie de voyager en littérature. Alors cette semaine, je vous propose Soie, S-O-I-E, la soie, oui, ce fabuleux tissu venu d'Orient. Soie, donc, sans article ni qualificatif, de Alessandro Baricco et Voyage. En effet, voyage vers le Japon d'un éleveur de vers à soie d'Ardèche. L'élevage des vers à soie, la sériciculture, comme on dit, enfin comme disent les gens sérieux, la culture de la garance aussi, sont pour moi des traditions provençales, enfin des activités traditionnelles du Sud qui m'ont toujours fascinée. Ces espèces de bulles suspendues dans le temps et dans l'espace. Oui, elles sont porteurs aussi de labeur éreintant pour les travailleuses et les travailleurs qui les pratiquaient. Mais ce sont vraiment comme des points de repère dans l'histoire et dans la civilisation, des marques bien précises de cette révolution industrielle qui, au XIXe siècle, fait éclore puis disparaître des activités qui ont durablement marqué leur région en laissant véritablement des traces de civilisation derrière elle. Alors, Soie, d'Alessandro Baricco, C'est un court roman, c'est un peu un conte qui s'ouvre et se referme sur justement un moment bien précis de l'histoire, de la sériciculture, de la production de la soie. C'est un voyage et une jubilation littéraire. Alors, j'espère que vous aimerez. Et pour le présenter, d'abord, je vais donner la parole à l'auteur. L'auteur, Alessandro Baricco, tout à fait notre contemporain, puisqu'il est né, je crois, en 1958 à Turin. Que dit-il ? Il dit « Ceci n'est pas un roman, ni même un récit. C'est une histoire. Et toutes les histoires ont leur musique. Celle-ci a une musique blanche. » C'est important de le dire parce que la musique blanche est une drôle de musique, déconcertante quelquefois. Elle se joue doucement et elle se danse lentement. Quand elle est bien jouée, c'est comme si on entendait jouer le silence. Et ceux qui la dansent, comme des dieux, on les regarde et on a l'impression qu'ils ne bougent pas. C'est terriblement difficile, la musique blanche. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Peut-être faudrait-il préciser que l'histoire se passe au XIXe siècle et que c'est juste pour que personne ne s'attende à y trouver des avions, des machines à laver, des téléphones ou des psychanalystes. Alors, nous dit l'auteur, il n'y en a pas ici, une autre fois peut-être. Donc on va se plonger dans cette histoire, comme il le dit, d'Alessandro Baricco. Et on va, au fil des pages, découvrir le voyage de son personnage principal, Hervé Joncourt, qui va partir très loin à la recherche de nouveaux œufs de ver à soie. Et on va découvrir au fil des pages, en effet, une histoire comme finalement on ne se doute pas finalement qu'elle ait pu exister là aux portes de notre bonne ville. Alors je vais d'abord passer la parole à Françoise.
Bien que son père eût imaginé pour lui un brillant avenir dans l'armée, Hervé Joncourt avait fini par gagner sa vie grâce à une profession insolite à laquelle n'était pas étranger, par une singulière ironie, des traits à ce point aimables qu'il trahissait une vague inflexion féminine. Pour vivre, Hervé Joncourt achetait et vendait des vers à soie. On était en 1861. Flaubert écrivait Salammbô. L'éclairage électrique n'était encore qu'une hypothèse et Abraham Lincoln, de l'autre côté de l'océan, livrait une guerre dont il ne verrait pas la fin. Hervé Joncourt avait 32 ans. Il achetait et il vendait des vers à soie. En réalité, Hervé Joncourt achetait et vendait des vers à soie quand ces vers étaient encore sous la forme d'œufs minuscules, d'une couleur jaune ou grise, immobiles et en apparence morts. Sur la seule paume de la main, il pouvait en tenir des milliers, ce qui s'appelle avoir une fortune entre les mains. Au premier jour de mai, les œufs s'ouvraient, libérant une larve qui, après 30 jours d'alimentation forcenée à base de feuilles de mûrier, travaillait à se réenfermer dans un cocon, pour s'en évader ensuite définitivement, 2 semaines plus tard, en laissant derrière elle un patrimoine équivalent en fil à 1000 mètres de soie grège et en argent à une quantité considérable de francs français, à la condition que tout se déroulât dans le respect des règles, et ce qui était le cas pour Hervé Joncourt dans quelques régions du midi de la France. La Ville-Dieu était le nom de la bourgade où vivait Hervé Joncourt. Hélène, celui de sa femme, il n'avait pas d'enfant.
Donc, on va commencer l'histoire de Hervé Joncourt. On va quand même rappeler cette histoire de la soie un tout petit peu avant. La soie est connue en Occident, enfin en Europe occidentale, depuis longtemps. Elle parcourt des milliers de kilomètres pour venir d'Orient. Et elle devient tout de même un petit peu le travail de ce qu'on a appelé les canuts lyonnais, mais au début dans une très petite quantité. Et puis, en effet, le travail de la soie se développe, comme déjà plutôt la porcelaine. On copie l'Orient et on cherche à fabriquer ce qui alors ne se produisait qu'en Chine ou au Japon. On va donc à Lyon développer la technique de la fabrique de la soie. Et pour pouvoir tisser la soie à Lyon, eh bien, on va faire élever des vers à soie dans les régions où le mûrier peut se développer. Ben oui, le mûrier, puisqu'on a observé justement avec les voyageurs qui étaient partis en Orient que les vers à soie se nourrissaient des feuilles du mûrier. Alors, pas très loin de chez nous, bah, pas très loin, il y a l'Ardèche, en effet, les contreforts, disons, du massif central, où on peut faire pousser des mûriers. Pas très loin non plus, de l'autre côté des Alpes, il y a le Piémont. Donc, les grandes villes de la soie en Europe vont devenir Lyon et Milan, des villes où on va tisser la soie qui aura été travaillée, en effet, qui aura été produite par les vers à soie et travaillée par ceux qui déroulent les cocons des vers à soie. Et quand je vous disais tout à l'heure que c'était un labeur éreintant, oui, c'est un labeur très difficile puisqu'il faut plonger les vers à soie dans l'eau bouillante pour les défaire, les dévider. Et ensuite, mouliner la soie, il y a dans toute l'Ardèche, dans la région d'Aubenas en particulier, des ateliers de moulinage. On appelle le moulinage de la soie le fait de, après que les cocons aient été dévidés, la torsion du fil qui va faire qu'on obtiendra des soies très fines, qui pourront ensuite, en effet, être tissés. Ben oui, tissés, vous le savez, par les canuts lyonnais et par les entreprises que dirigent les soyeux lyonnais. Alors, les canuts n'ont pas tout à fait disparu du paysage de Lyon, puisqu'on a, bien sûr, à la Croix-Rousse, ces fameuses maisons de canuts avec des plafonds très élevés qui permettaient d'installer les métiers jacquards, qui étaient des métiers très hauts, Et sur lesquels donc les canuts tissaient cette fameuse soie de Lyon. Et avant d'être tissée à Lyon, elle était donc moulinée en Ardèche. Et avant d'être moulinée, bah, il fallait qu'elle soit produite par les vers à soie qui mangeaient les feuilles de mûrier. Alors les vers à soie, en effet, je ne sais pas exactement comment ça vit les vers à soie. Il faudra peut-être que je mène la recherche une autre fois. Je pense qu'ils se reproduisent pas beaucoup. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que chaque année, en effet, les gens qui, à l'époque, pratiquaient la sériciculture, donc l'élevage des vers à soie, il fallait qu'ils rachètent des œufs, un peu comme les plantes qui ne sont pas... les plantes annuelles qui ne sont pas des plantes vivaces, ben, il faut les replanter chaque année. Les œufs des vers à soie, il fallait chaque année les racheter et réinstaller sur les feuilles des mûriers, puisque ces petites bêtes, il fallait qu'elles grandissent et une fois grandies, qu'elles fabriquent des cocons pour se protéger avant de devenir... c'est quoi les papillons ? C'est des bombyx, hein ? Enfin, c'est une sorte de bombyx. Donc bref, on doit faire vivre ces vers à soie. Et pour les faire vivre, il faut d'abord avoir des œufs. Le problème qui se pose à un moment donné de l'élevage des vers à soie, c'est que les œufs, bah, je sais pas, ou les vers eux-mêmes, sont, vous savez, c'est un petit peu comme le milieu de la vigne, sont frappés de maladies et il faut aller les chercher de plus en plus loin. Alors, je reprends la lecture d'Alessandro Baricco, soit. Pour éviter les ravages des épidémies qui affectaient de plus en plus souvent les élevages européens, Hervé Joncourt allait acheter les œufs de vers à soie jusque de l'autre côté de la Méditerranée, en Syrie et en Égypte. En cela résidait l'aspect le plus spécifiquement aventureux de son travail. Chaque année, au premier jour de janvier, il partait. Il traversait 1600 milles de mer et 800 kilomètres de terre. Il choisissait les œufs, négociait le prix, achetait, puis il faisait demi-tour, traversait 800 kilomètres de terre et 1600 milles de mer et s'en revenait à la ville-dieu. En général, le premier dimanche d'avril, en général, à temps pour la grand-messe. Il travaillait encore 2 semaines à emballer les œufs et à les vendre, et le reste de l'année, il se reposait. Et alors, elle est comment l'Afrique ? Lui demandaient les gens. Fatiguée. Il avait une grande maison à la sortie du bourg et un petit atelier dans le centre, juste en face de la maison abandonnée de Jean Berbec. Jean Berbec, lui, qui un jour avait cessé de parler. À acheter et vendre ses verres à soie, Hervé Joncourt gagnait chaque année une somme suffisante pour assurer à sa femme et à lui-même ce confort qu'en province on tend quasiment à nommer luxe. Mais il jouissait avec discrétion de ses biens et la perspective vraisemblable de devenir réellement riche un jour le laissait tout à fait indifférent. On va continuer donc l'histoire de Hervé Joncourt et nous verrons comment il en vient à connaître la grande aventure.
Si on le lui avait demandé, Hervé Joncourt aurait répondu que sa vie continuerait ainsi toujours. Au début des années 60, cependant, l'épidémie de pébrine qui avait rendu inutilisables les œufs des élevages européens se répandit au-delà des mers, jusqu'en Afrique et même, selon certains, jusqu'en Inde. Hervé Joncourt rentra de son voyage habituel en 1861 avec un approvisionnement en œufs qui se révéla deux mois plus tard presque totalement infecté. Pour la ville Dieu, comme pour tant d'autres villes qui fondaient leur richesse sur la production de la soie, cette année-là parut représenter le début de la fin. La science se montrait incapable de comprendre les causes des épidémies, et la terre entière, jusque dans ses régions les plus reculées, paraissait prisonnière de ce sortilège sans explication. « Pas toute la terre, » dit doucement Baldabiou, « pas toute, » en versant deux doigts d'eau, dans son verre d'anisette.
Alors oui, déjà, dans l'Ardèche de 1861, on boit son anisette. Et il y a, à la Ville-Dieu, ce personnage un peu surprenant de Baldabiou, qui, lui, sait tout. C'est un peu bizarre. Il y a, je vous ai dit, dans ce roman qui ressemble à un conte, des personnages comme ça, bien typés. Il y a Hervé Joncourt, le héros invisible ou presque, enfin en tout cas le héros qui ne ressemble pas à un héros. Et il y a Baldabiou, l'homme éminence grise, pourrait-on dire, de toute l'affaire, qui, chaque fois que se pose un problème, lui propose des solutions. Alors, Baldabiou, ce jour-là, quand on pense que, quand on dit dans les rassemblements des producteurs de verre à soie, quand on dit dans les réunions de producteurs de verre à soie que la terre entière est infectée, Baldabiou répond non, pas toute la terre. Non, non, pas toute la terre. Et il rencontre un peu plus longuement Hervé Joncourt, puisque justement il lui a dit « Pas toute la terre, » dit doucement Baldabiou, « pas toute, » en versant deux doigts d'eau dans son anisette. Nuit d'août, passé minuit. À cette heure-là, au café de la place principale de la Ville-Dieu, Baldabiou et Hervé Joncourt sont attablés. Baldabiou est en train de parler. Assis en face de lui, Hervé Joncourt, une cigarette éteinte aux lèvres, écoute, immobile. Comme 8 ans avant, quand il s'est lancé dans l'élevage des vers à soie, ou plutôt dans le commerce des œufs pour l'élevage des vers à soie, cet homme lui propose tranquillement de réécrire son destin. La voix lui arrive, faible mais claire, rythmée par les gorgées périodiques d'anisette. Sans s'interrompre, pendant de longues minutes, Baldabiou explique et finit par dire « Il n'y a pas le choix. Si nous voulons survivre, il faut aller là-bas. » Hervé Joncourt pose sa cigarette sur le bord de la table avant de dire « Bon, et c'est où exactement ce Japon ?» Baldabiou lève sa canne de jonc en l'air et la pointe par-delà les toits de Saint-Auguste qui est en face. Par là, toujours tout droit, jusqu'à la fin du monde. Et en effet, en ce temps-là, le Japon était vraiment à l'autre bout du monde. C'était une île faite d'îles Et en fait, personne ne savait vraiment qui y vivait. On savait que ce n'était pas un continent, on savait que les autorités du pays interdisaient l'accès aux étrangers, on savait que c'était au-delà de la côte chinoise, à peu près 200 000, et donc un décret impérial avait veillé à rendre l'empire le plus éloigné possible, même des côtes de Chine. En fait, l'empereur empêchait sur toute l'île la construction de bateaux à plus d'un mât, pour que les Japonais eux-mêmes ne puissent pas naviguer bien loin. Donc, interdiction de recevoir les étrangers et interdiction de s'expatrier. Les commerçants chinois, hollandais et anglais avaient essayé maintes fois de rompre cet isolement absurde, mais ils n'étaient parvenus qu'à mettre en place un réseau de contrebande périlleux, toujours fragile. Ils y avaient gagné finalement peu d'argent, beaucoup d'ennuis, quelques légendes. En juillet 1853, toutefois, le commodore Matthew Perry était entré dans la rade de Yokohama à la tête d'une flotte moderne de bateaux à vapeur et avait remis aux Japonais un ultimatum qui souhaitait l'ouverture de l'île aux étrangers. Les Japonais n'avaient jamais vu jusque-là de navire capable de remonter la mer contre le vent dans la baie de Yokohama. Alors, le gouvernement militaire de l'île se plia à la signature d'un accord qui acceptait l'ouverture aux étrangers de deux ports dans le nord du pays et l'établissement de quelques premières très prudentes relations commerciales. En fait, c'est ça dont Baldabiou a été informé. Lui qui sait tout, il sait que oui, il peut y avoir quelques commerces avec le Japon. Baldabiou connaissait précisément toutes ces histoires. Il disait surtout que dans cette île, on produisait la plus belle soie du monde depuis plus de 1000 ans, selon des rites et des secrets qui avaient atteint un vrai mystère. Quand tout parut s'en aller à volo en Occident à cause de cette histoire de pébrine et d'œufs malades, il pensa que cette île était pleine de verre à soie. Et une île où pendant 200 ans, aucun commerçant étranger n'était parvenu à entrer, aucun commerçant japonais n'était parvenu à sortir, eh bien, dans cette île, aucune maladie n'entrerait jamais si ça continuait comme ça. Donc, d'après lui, d'après notre fameux Baldabiou, les Japonais vont peut-être entrouvrir la porte et s'ils sont résignés à vendre leur soie, pour l'instant, ils ne vendent pas leurs œufs. Il va donc falloir aller les chercher en contrebande, justement. Parce que pour l'instant, celui qui essaie de faire sortir des œufs des îles du Japon commet un crime. On était, comme on l'a dit, en 1861. Flaubert finissait Salammbô. Lincoln ne finissait pas la guerre de sécession. Et les sériciculteurs de la Ville-Dieu, qui étaient déjà réunis en société, se rassemblèrent pour rassembler la somme considérable nécessaire à l'expédition de Hervé Joncourt au Japon. C'était le 6 octobre. Hervé Joncourt partit, seul. Aux portes de la Ville-Dieu, il serra contre lui sa femme Hélène et lui dit simplement « Tu ne dois avoir peur de rien ». C'était une femme grande, aux gestes lents. Elle portait de longs cheveux noirs qu'elle ne rassemblait jamais sur sa tête. Elle avait une voix superbe.
Hervé Joncourt partit avec 80 000 francs or et les noms de trois hommes que Baldabiou lui avait procurés. Un Chinois, un Hollandais et un Japonais. Il passa la frontière près de Metz, traversa Württemberg et la Bavière, pénétra en Autriche, atteignit par le train Vienne puis Budapest et poursuivit jusqu'à Kiev. Il parcourut à cheval 2000 km de steppe russe, franchit les monts Oural, entra en Sibérie, voyagea pendant 40 jours avant d'atteindre le lac Baïkal, que les gens de l'endroit appelaient mer. Il redescendit le cours du fleuve Amour, longeant la frontière chinoise jusqu'à l'océan, et quand il fut à l'océan, resta 11 jours dans le port de Sabirk en attendant qu'un navire de contrebandiers hollandais l'amène à Kapo Teraya, sur la côte ouest du Japon. À pied, en empruntant des routes secondaires, il traversa les provinces d'Ishikawa, Toyama, Niigata, pénétra dans celle de Fukushima et arriva près de la ville de Shirakawa, qu'il contourna par l'est, puis attendit pendant 2 jours un homme vêtu de noir qui lui banda les yeux et qui le conduisit jusqu'à un village dans les collines où il passa la nuit. Et le lendemain, matin, négocia l'achat des œufs avec un homme qui ne parlait pas et dont le visage était recouvert d'un voile de soie. Noir. Au coucher du soleil, il cacha les œufs dans ses bagages, tourna le dos au Japon et s'apprêta à reprendre le chemin du retour. Il avait à peine laissé les dernières maisons du village derrière lui qu'un homme le rejoignit en courant et l'arrêta. Il lui dit quelque chose sur un ton excité et péremptoire, puis le fit revenir sur ses pas avec courtoisie et fermeté. Hervé Joncourt ne parlait pas japonais et ne l'entendait pas non plus, mais il comprit qu'Arakei voulait le voir.
Arakei.
Alors, c'est là que commence la véritable aventure, parce qu'en fait, là, vous venez d'avoir le récit de voyage, c'est assez beau, hein, ce récit de voyage, cette traversée de l'Europe, de l'Asie, cette arrivée sur les côtes chinoises, puis sur les côtes japonaises, cette traversée à pied d'une bonne partie du nord du Japon. Bon, bref, là, c'est l'aventure, je dirais, normale, et puis tout à coup, l'apparition d'un homme qui court, qui vient le rechercher et qui vient lui dire que Arakei veut le voir. Alors, véritablement, je disais, l'aventure commence. Donc, avant le début de l'aventure, on va quand même passer notre bonne vieille chanson traditionnelle de la soie en France, notre chanson des Canuts. Et vous allez voir, elle est un petit peu surprenante, cette interprétation des Canuts. Merci, Jules.
Chanter béni créateur, il faut avoir chasuble d'or.
Pour chanter béni créateur, il faut avoir chasuble d'or.
Nous en tissons pour vous grande l'église, et nous pauvres canuts n'avons pas de chemise.
Nous en tissons pour vous grande l'église, et nous pauvres canuts n'avons pas de chemise.
Nous les canuts, nous sommes tous nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans en sautoir.
Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans en sautoir.
Nous en tissons pour vous grande la terre, et nous pauvres canuts sans drap, on nous enterre.
Nous en tissons pour vous de la terre, et nous pauvres canuts sans drap, on nous enterre.
C'est nous les canuts, nous allons tout nus.
déjà la tempête qui gronde.
Nous en tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la tempête qui gronde. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus.
C'était une interprétation un peu surprenante. Alors, je l'avais choisie à cause justement de ces instruments de musique variés qui donnent une espèce de note un petit peu plus rurale ou un petit peu plus traditionnelle à l'air. Mais alors, je ne suis pas d'accord avec les paroles. Hein, vous avez entendu, il parle d'une tempête qui gronde. Eh bien non, dans la chanson de Bruant, c'est la révolte qui gronde. Et puis les canuts, justement, puisqu'ils se révoltent, à la fin, il conclut en disant « C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus ». Donc voilà, les canuts n'iront plus nus. Les canuts, hélas, ils ont été écrasés dans leur révolte. Mais ça, c'est une autre histoire. Et on va revenir à celle de Hervé Joncourt. Hervé Joncourt vient donc d'arriver et est prêt à repartir. Mais au moment de son départ, on vient le prévenir que le seigneur Arakeï veut le recevoir. Il va jusqu'à la maison de Arakeï. Un panneau de papier de riz glissa et Hervé Joncourt entra dans la pièce. Arakeï était assis sur le sol, les jambes croisées, dans le coin le plus éloigné. Il était vêtu d'une tunique sombre et il ne portait aucun bijou. Seul signe visible de son pouvoir, une femme étendue près de lui, la tête posée sur ses genoux, les yeux fermés, les bras cachés sous un ample vêtement rouge qui se déployait autour d'elle, comme une flamme sur la natte couleur de cendre. Et cette femme, quand on regardait son visage, c'était le visage d'une jeune fille. Arakeï fit apporter deux tasses de thé, prit la première, la porta à ses lèvres, laissa passer quelques instants et dit « Essayez de me raconter qui vous êtes ». Il le dit en français, entraînant un peu sur les voyelles. Avec une voix rauque, vraie. À l'homme le plus imprenable du Japon, maître de tout ce que le monde réussissait à faire sortir de cette île, Hervé Joncourt essaya de raconter qui il était. Ses yeux restaient fixés sur les lèvres de Arakeï, qui pourtant ne parlait pas, et Arakeï gardait ses yeux fixés sur les lèvres d'Hervé Joncourt, comme si elles étaient les lignes d'une lettre. Tout était totalement silencieux et immobile. Et tout à coup, sans bouger le moins du monde, la jeune fille, assise à côté de Arakeï, ou plutôt allongée à côté de lui, ouvrit les yeux. Hervé Joncourt ne s'arrêta pas de parler, mais baissa instinctivement ses yeux vers elle. Et ce qu'il vit, sans s'arrêter de parler, c'était que ces yeux-là n'avaient pas une forme orientale, non, mais occidentale, et qu'ils étaient, avec une intensité déconcertante, rivés sur lui. Il ne s'interrompit que lorsque ses yeux, balayant le sol, tombèrent sur la tasse de thé posée en face de lui. Alors il la prit, la porta à ses lèvres et but lentement. Puis il recommença à parler. Il parla de la France, de ses voyages en mer, des mûriers, de la ville-dieu. Il parla longtemps. Il ne s'interrompit que lorsque Arakeï détacha ses yeux de lui et le salua. En français, traînant un peu sur les voyelles, comme on disait, Arakeï dit si vous voulez, si vous le désirez, ce sera un plaisir pour moi de vous voir revenir. » Et pour la première fois, il sourit. « Les œufs que vous avez achetés sont des œufs de poisson. Ils n'ont à peu près aucune valeur. » Hervé Joncourt baissa les yeux et puis il reposa la tasse qu'il avait toujours devant lui et dit « Je sais. » Racaille se mit à rire, amusé. « C'est pour cette raison que vous les avez payés avec de l'or faux. » Hervé Joncourt dit « Oui, j'ai payé ce que j'ai acheté. » Racaille redevint sérieux. « Quand vous sortirez d'ici, vous pourrez avoir ce que vous vouliez. » Et quand je sortirai de cette île, vivant, vous recevrez l'or qui vous revient. Vous avez ma parole. » Hervé Joncourt n'attendit pas de réponse. Il se leva, recula de quelques pas, puis s'inclina et sortit.
6 jours plus tard, Hervé Joncourt s'embarqua à Takaoka sur un navire de contrebandiers hollandais qui le déposa à Sabirk. De là, il remonta la frontière chinoise jusqu'au lac Baïkal, traversa 4000 km de terre sibérienne, franchit les monts Oural, atteignit Kiev et parcourut en train toute l'Europe, d'est en ouest, avant d'arriver après 3 mois de voyage en France. Le premier dimanche d'avril, à temps pour la grand-messe, il était aux portes de la ville-Dieu. Il s'arrêta, remercia le bon Dieu et entra dans le bourg à pied, comptant ses pas, pour que chacun eût un nom et pour ne plus jamais les oublier. « Elle est comment, la fin du monde ?» lui demanda Baldabiou. « Invisible. » À sa femme Hélène, il offrit en cadeau une tunique de soie.
Une tunique de soie si fine qu'elle n'osa jamais la porter. Donc Hervé Joncourt est parti, il est revenu, tout va bien, et nous dit l'auteur, les œufs qu'Hervé Joncourt avait rapportés du Japon, accrochés par centaines sur de petites feuilles d'écorce de mûrier, se révélèrent parfaitement sains. La production de soie dans la région de la ville-Dieu fut cette année-là extraordinaire, en qualité comme en quantité. Hervé Joncourt fit quelques comptes et se découvrit riche. Il acheta 30 acres de terre au sud de sa propriété et occupa les mois de l'été à dessiner un parc où ce serait léger, un jour, de se promener dans le silence. Et puis Hervé Joncourt repartit pour le Japon l'année suivante. Alors, je vous passe les détails du voyage, puisque vous le connaissez. Hein. Il y a, en fait, 2 fois, et puis encore 3 fois, enfin, disons une 3e fois, ces détails du voyage qui font partie de la litanie, qui font partie, au fond, du conte. Chaque fois, l'auteur reprend exactement la description du voyage avec, bien sûr, ces différents moyens de transport et reprend cette espèce de fil, puisqu'il s'agit d'un fil aussi, un fil d'énonciation qui nous raconte l'histoire d'Hervé Joncourt d'ouest en est, puis d'est en ouest. Au milieu, « Mon ami français », murmura Racaille sans se retourner. Ils restèrent des heures, assis l'un près de l'autre, à parler et à se taire. Puis Racaille se leva et Hervé Joncourt le suivit. Hervé Joncourt était resté l'hôte d'Racaille pendant 4 jours. C'était comme vivre à la cour d'un roi. Le village tout entier existait autour de cet homme, la région sans doute aussi, et il n'y avait guère de gestes dans ces collines qui ne fût accompli pour sa défense ou pour son plaisir. La vie bourdonnait à mi-voix, elle bougeait avec une lenteur pleine de ruse, comme un animal traqué dans sa tanière. Le monde semblait à des siècles de là. D'ailleurs, Hervé Joncourt ne revit à Racaille que le matin du 3e jour. Il s'aperçut que les serviteurs avaient disparu, que le village existait, mais on avait l'impression, il avait l'impression en tout cas, de se déplacer dans une bulle de vide. C'est comme si les gens d'ici vivaient en volant au-dessus du sol, pensa-t-il. Ici, les gens regardent les oiseaux voler et dans le vol des oiseaux, ils lisent le futur. Ils revinrent au village, puisqu'ils étaient en train de se promener, et arrivés devant la maison qu'occupait Hervé Joncourt, ils se saluèrent, se séparèrent. Le matin du dernier jour, Hervé Joncourt sortit de la maison et erra à nouveau à travers le village. Il avait là encore l'impression d'un village vide, mais quand il se dirigea vers la maison de Haraquel, il vit une immense volière qui abritait un nombre incroyable d'oiseaux de toutes sortes, un véritable spectacle féerique. Haraquel lui avait raconté qu'il les faisait venir de tous les endroits du monde. Quelques-uns valaient plus que toute la soie produite par la ville-dieu en une année. Hervé Joncourt s'arrêta pour regarder cette folie magnifique. Il se souvint d'avoir lu dans un livre que les Orientaux, pour honorer la fidélité de leur maîtresse, n'avaient pas coutume de leur offrir des bijoux, mais plutôt des oiseaux, raffinés et superbes. Le soir, Hervé Joncourt prépara ses bagages, puis il se laissa conduire dans une grande pièce pour le rituel du bain. Et puis, à la sortie du bain, on lui remit un billet écrit en japonais. Le lendemain tôt, le matin, Hervé Joncourt partit. Caché parmi ses bagages, il emportait avec lui des milliers d'œufs de verre à soie, autrement dit l'avenir de la ville-dieu, du travail pour des centaines de personnes et la richesse pour une dizaine d'autres. Il emportait aussi ce petit message écrit à l'encre dans un tout petit endroit de ses bagages et il rentrait en France avec. Le premier dimanche d'avril, à temps pour la grand-messe, il était aux portes de la ville-dieu. Il vit sa femme Hélène accourir à sa rencontre, sentit le parfum de sa peau et la serra contre lui, et le velours de sa voix, Hélène dit « Tu es revenu ». Il répondit « Je suis revenu ». Donc c'était le deuxième voyage, et en fait il va y avoir un troisième voyage. Mais entre les deux, Hervé Joncourt dit à sa femme Hélène qu'il devait se rendre à Nîmes pour affaires. Il se rendit à Nîmes une journée. Il monta au premier étage, au-dessus du magasin de tissus, au 12 de la rue Mosca, et demanda Madame Blanche.
Hervé Joncourt attendit près de 2 heures, puis on l'accompagna dans le couloir jusqu'à la dernière porte. Il ouvrit et entra. Madame Blanche était assise dans un grand fauteuil non loin de la fenêtre. Elle était vêtue d'un kimono fait d'une étoffe légère, entièrement blanc. À ses doigts, comme autant de bagues, elle portait des petites fleurs d'un bleu intense. « Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes assez riche pour pouvoir coucher avec moi ?» Hervé Joncourt resta debout, face à elle, son chapeau à la main. « J'ai besoin que vous me rendiez un service, peu importe le prix. » Puis il tira de la poche intérieure de sa veste une petite feuille, plié en quatre et la lui tendit. « Il faut que je sache ce qui est écrit là. » « Revenez ou je mourrai. » Elle dit cela d'une voix froide en regardant Hervé Joncourt dans les yeux et sans laisser échapper la moindre expression. « Revenez ou je mourrai. » Hervé Joncourt replaça la feuille dans la poche intérieure de sa veste. « Merci. » Laissez tomber. Elle ne mourra pas et vous le savez. Sans se retourner, Hervé Joncourt posa les billets sur la table, ouvrit la porte et s'en alla.
Ben oui, moi je trouve ça très savoureux, cette histoire de tenancière de maison close qui lit et pratique le japonais et qui traduit pour Hervé Joncourt le billet que
surtout
lui a fait remettre la femme japonaise qu'il n'avait rencontrée qu'une fois. Donc, revenez où je mourrai. Eh bien, en fait, ça lui fait 2 raisons de retourner au Japon. Il est déjà parti 2 fois pour le bout du monde. Il va y repartir une 3e fois, même si les circonstances sont véritablement difficiles, on va voir ça. Parce que, en effet, cette femme allongée près de Haraquel lui a fait tenir un billet, comme on disait, sur lequel elle avait écrit « Revenez ou je mourrai ». Même si la tenancière de Maison Close a dit, elle, « Laissez tomber, elle ne mourra pas », et vous le savez, eh bien Hervé Joncourt, il est évidemment du côté du romantisme, du côté du message, du côté de la belle jeune fille découverte aux côtés de Haracaï. Et c'est évidemment au message de la belle, enfin, de la belle étrangère, on n'en sait rien après tout, mais en tout cas de la belle occidentale découverte aux côtés de Haracaï. Alors l'histoire, si on peut dire, c'est que, et l'histoire vraie, c'est l'histoire avec un grand H, c'est que le Japon est dans une guerre avec la Chine. L'accès au Japon est encore plus difficile que précédemment. Et pourtant, nous dit Alessandro Baricco, Hervé Joncourt partit pour le Japon au premier jour d'octobre pour son troisième voyage. Et bien sûr, on a à nouveau le récit du voyage, de la traversée du Württemberg et de la Bavière, de la Sibérie, de l'océan, de l'arrivée au port de Sabirk, puis à Kapoteraya sur la côte du Japon, et de nouveau d'un homme qui doit le conduire chez Haracaï. Ceci un petit peu au milieu du chaos, d'une espèce de soubresaut général du pays. Mais enfin, à cheval, ils arrivent en vue du village et Hervé Joncourt rencontre à nouveau Haracaï. On le conduisit dans l'une des dernières maisons. Le ciel au-dessus du palais s'était noirci du vol de centaines d'oiseaux comme explosés de la terre. Des oiseaux de toutes sortes, étourdis, qui s'enfuyaient de tous côtés, affolés, et chantaient et criaient comme une pyrotechnie jaillissante d'ailes, une nuée de couleurs et de bruits lancés dans la lumière. Ils étaient terrorisés, c'était une musique de fuite là dans le ciel, une musique à voler dans tout le ciel. Hervé Joncourt sourit. De quoi s'agitait-il? Le village commençait à s'agiter comme une fourmilière affolée, lui aussi. Les villageois couraient, criaient et regardaient en l'air pour suivre des yeux les oiseaux échappés, l'orgueil de leur seigneur pendant des années. Et à présent, l'outrage qui avait été fait et qui volait dans le ciel. Devant la volière, une femme. Il ne regarda pas autour de lui, il contempla, il continua à marcher, il contempla à nouveau, s'arrêta, oui, lorsqu'il fut en face d'elle. Ses yeux n'avaient pas une forme orientale, son visage était celui d'une jeune fille avec des yeux qui n'étaient pas de forme orientale. Hervé Joncourt fit un pas vers elle, tendit le bras et ouvrit la main. Sur sa paume, il avait placé un billet plié en quatre. Elle le vit et son visage entier se mit à sourire. Elle posa sa main sur celle d'Hervé Joncourt, la serra avec douceur et garda dans ses doigts le billet qui avait fait le tour du monde. Et puis la voix de Haracaï se fit entendre. « Soyez le bienvenu, mon ami français. » Il était à quelques pas, son kimono sombre, ses cheveux noirs parfaitement rassemblés sur la nuque. Il s'approcha, il examina la volière, regarda les portes grandes ouvertes. « Ils reviendront, dit-il. Il est toujours difficile de résister à la tentation de revenir, n'est-ce pas ?» Hervé Joncourt ne répondit pas. Haracaï le regarda dans les yeux et le fit entrer dans sa maison. « Elle ne connaît pas votre langue, dit-il. Mais venez. » C'était donc, c'est encore, le troisième voyage. Et pendant le troisième voyage, eh bien, l'aventure se poursuit dans la mesure où Hervé Joncourt rencontre Haracaï à nouveau, lui achète des œufs à nouveau, et s'en va. Alors, vous allez me dire que devient l'aventure de Hervé Joncourt avec la femme mystérieuse de Haracaï. Eh bien, pour le savoir, il faudra attendre le quatrième voyage. Le quatrième voyage qui ne prendra place qu'après le bonheur qui s'accroît pour Hervé Joncourt et sa femme. Hélène, Hervé se retrouvent pour une vie, de douceur, peut-être de luxe, puisque Hervé Joncourt a remis les œufs aux sériciculteurs de la Ville-Dieu. Et il s'est montré dans le pays en négligeant quelquefois même la modestie qu'il avait habituellement. Il a dessiné le jardin ou le parc qu'il prévoit de faire autour de sa maison et il a même dessiné, en noircissant des feuilles de dessin bizarres. Sa femme Hélène lui a demandé « Qu'est-ce que c'est ? C'est une volière. » « Une volière ? Oui. Et pour servir à quoi ?» Hervé Joncourt avait gardé les yeux fixés sur les dessins. « Eh bien, tu la remplis d'oiseaux, le plus que tu peux, et le jour où il t'arrive quelque chose d'heureux, tu ouvres la porte en grand et tu les regardes s'envoler. » Donc, le quatrième voyage prend place après cet épisode de la libération des oiseaux du bout du monde et de la construction de la volière par Hervé Joncourt à la Ville-Dieu. Il prend place aussi après le fait que Baldabiou a des nouvelles. J'ai rencontré un certain pasteur, un homme bien, un jeune chercheur. Il est capable de reconnaître les œufs malades des œufs sains. Mais pour l'instant, il ne sait pas soigner les œufs malades. Il peut simplement isoler ceux qui sont malades et ceux qui sont sains. Et il a dit que chez nous, probablement 30% de ceux que nous possédons permettent de continuer la production. Et puis on dit que cette fois, la guerre au Japon a éclaté, vraiment, pour de bon. Les Anglais donnent des armes au gouvernement et les Hollandais aux rebelles. Alors c'est vraiment difficile d'aller là-bas. Le consulat français regarde, mais déconseille les voyages. Alors voilà où l'on en est et où l'on est des dépêches qui disent aussi que des étrangers ont été égorgés par surprise un peu partout. Baldabiou et Joncourt vont donc discuter de l'opportunité d'aller au Japon, alors que peut-être on peut reprendre une production un peu limitée, mais tout de même à la Ville-Dieu avec les œufs locaux, et que c'est bien dangereux d'aller au Japon. Hervé Joncourt resta, après cette discussion, un moment les yeux fixés sur le parc qu'il dessinait et qu'il projetait. Puis il fit quelque chose de rare chez lui. Il prit une décision. « J'irai au Japon, » dit-il à sa femme. « J'irai au Japon, » dit-il à Baldabiou. « J'achèterai des œufs. S'il faut, je les achèterai avec mon propre argent. Mais dans tous les cas, j'irai au Japon. » Ça sera donc, pour le roman, le dernier voyage de Hervé Joncourt. Et puis, ce voyage, il est comme les autres. Il est comme les autres à travers l'Europe, il est comme les autres à travers l'Asie, il est comme les autres même à travers l'océan qui sépare la Chine du Japon. Seulement, au bout de la route, il trouve le village de Haracaï entièrement brûlé. Les maisons, les arbres, il n'y a plus rien. Pas âme qui vive. Hervé Joncourt reste immobile, regardant l'énorme brasier éteint, et devant lui, il réalise qu'il n'y a plus rien. Ce n'est plus le bout du monde, c'est la fin de ce monde. Il resta là un moment, et puis il vit surgir, de rien, de nulle part, un jeune garçon vêtu de haillons, qui lui remit un billet. Eh oui! Et oui, le garçon cesse de trembler lorsque Hervé Joncourt lui parle en français. Il lui dit « C'est moi, le français, l'homme de la soie. » Et l'enfant remet le billet. Voilà, c'est la fin de l'histoire peut-être. En tout cas, cette fois-là, Hervé Joncourt ne trouve pas d'œufs à acheter, ou il trouve à en acheter bien tard sur le chemin du retour. Et il ne rapportera pas aux sériciculteurs, il ne rapportera que le message de l'enfant. Et puis, dans une espèce de fin de conte aussi, Alessandro Baricco nous dit de façon tout à fait morale que l'histoire de la sériciculture et l'histoire de la soie, c'est bien quelque chose qui se termine pour la région de la Ville-Dieu. Au début de la nouvelle année 1866, le Japon autorisa officiellement l'exportation des œufs de ver à soie. Les aventures individuelles se terminaient. Pendant la décennie suivante, la France ira jusqu'à importer jusqu'à 10 millions de francs de japonais. Et à partir de 1869, avec l'ouverture du canal de Suez, se rendre au Japon deviendrait un simple voyage de 20 jours, en revenir même un peu moins. Mais pour la soie française, une drôle d'aventure arrivait en même temps. La soie artificielle, brevetée par un Français nommé Chardonnay, et qui a été breveté précisément en 1884. Donc la sériciculture de la Ville-Dieu, bah oui, ça a été une merveilleuse aventure. Les voyages de Hervé Joncourt au Japon, de merveilleuses aventures. Les histoires de transmission du billet, une merveilleuse aventure aussi. Et le deuxième billet, que disait-il? C'est bien sûr la Dame Blanche qui l'a dit. « Mon Seigneur bien-aimé, n'aie pas peur, ne bouge pas, garde le silence, personne ne nous verra. » C'est donc la fin de la sériciculture et de l'aventure d'Hervé Joncourt. C'est la fin de Soi, de Alessandro Baricco. Et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt !